Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
5h13, l'heure d'ouvrir le pressing. Les articles les plus insolites du jour racontés par Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Vous nous disiez que vous alliez jouer à l'Euromillion pour vendredi.
Oui. 130 millions d'euros, c'est pas mal.
Ouais.
Pour bien commencer les vacances.
On est d'accord. Et 130 millions, ça devrait pouvoir faire de belles vacances.
C'est le meilleur moyen de gagner, c'est d'abord de jouer.
Ouais. Mmh. Merci pour
cette pub en direct.
Cette incursion philosophique. Paul, on commence avec vous.
Le Huffington Post nous annonce le grand retour d'une des stars mondiales des caméras cachées qui a refait surface ce week-end dans la ville d'Olympia, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Il s'agit de l'acteur et humoriste Sacha Baron Cohen, qui s'est notamment fait connaître en se grimant dans la peau de personnages absurdes comme le rappeur Ali G ou l'excentrique Borat, hein, on s'en souvient avec son
la combinaison,
avec
ouais.
sa combinaison,
ouais, sa femme, une espèce de quoi, de maillot de bain.
Oui, voilà, ouais. un maillot de bain, une
un,
pièce,
un peu string,
un bikini, enfin, ouais. string, monokini.
Bizarre.
Une activité de caméra cachée qu'il a évidemment dû arrêter à cause de sa notoriété à travers le monde. Et ce week-end, l'artiste est donc réapparu en public à un rassemblement de l'extrême droite américaine organisé par un groupe dénommé les 3%. Et on peut dire qu'il est bel et bien de retour. En se faisant d'abord passer pour un sponsor et en remplissant le rassemblement avec son propre personnel de divertissement et de sécurité. Ensuite, Sacha Baron Cohen s'est grimé en une espèce de chanteur country avec une barbe et un faux ventre devant les caméras avant d'arriver sur scène. Une scène qu'il avait financée lui-même sans bien sûr indiquer sa réelle identité, ça va de soi. Une fois sur scène, il commence donc à chanter un titre parodique et caricatural, se manquant tour à tour de Barack Obama, Hillary Clinton et du docteur Fauci, le monsieur coronavirus de la Maison Blanche, suggérant qu'on leur injecte la grippe de Wuhan. Sur scène, vous l'entendez un tout petit peu derrière moi, puisque le public s'est même mis à chanter et à reprendre en chœur les paroles de Sacha Baron Cohen. Puis au bout d'un long moment, les organisateurs se sont quand même posé des questions, ils ont même compris qu'il s'était fait avoir et ont essayé de le couper. Sauf que l'équipe de Sacha Baron Cohen a réussi à les empêcher d'interrompre le concert avant quand même, une fois que les spectateurs s'en sont rendus compte, de devoir l'évacuer. Figurez-vous, dans une ambulance, mais une ambulance qui avait été louée spécialement par la production pour préparer l'exfiltration.
Maintenant.
Du coup, exfiltration, mais puisqu'il ne manque pas d'audace, notre ami Sacha Baron Cohen, il est revenu grimé en journaliste pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Le grand retour de Sacha Baron Cohen, c'est à lire sur le site du Huffington Post.
Merci beaucoup Paul Lassen. Omblin Roche.
Sauriez-vous reconnaître cette langue ? Oui, c'est pas facile. Hein.
Non.
Cette langue, ça s'appelle Rama. Elle appartient à la famille des langues chibchanes d'Amérique centrale et de Colombie. Ils ne sont plus que poignées à la parler, cette langue, le Rama, au Nicaragua, par exemple. Quand une langue disparaît, c'est un article à lire dans le quotidien La Croix. Il y a 10 ans, l'UNESCO avait tiré la sonnette d'alarme. Environ 2500 langues sur les 700 000 recensées étaient en train de disparaître. Un chiffre.
Sur les 7000, je crois.
Qui progresse. Oui, sur les 7000.
Vous avez dit 700 000.
Ah pardon, non, 7000.
Ça fait moins quand même.
C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. 2500 langues qui disparaissent sur 7000 recensées. Un chiffre qui progresse donc, une langue qui disparaît en même temps que les émetteurs, faute de l'avoir transmise à une nouvelle génération. Elles sont une douzaine à mourir chaque décennie, des dialectes qui ne sont plus jamais prononcés. Un directeur de recherche au CNRS, spécialiste des langues océaniennes, témoigne. En 2005, dit-il, dans l'archipel des Salomon à Vanikoro, on parlait le Tanema, le Lovono et le Teanu. Trois langues bien distinctes.
Oui,
pour les deux premières.
Évidemment.
Moins de 10 ans plus tard, il ne restait plus que quelques locuteurs. La troisième, le Tenaou, donc, s'était petit à petit imposé. Chaque fois qu'un locuteur meurt, la langue s'appauvrit. L'article compare cette disparition à la biodiversité qui est en danger. Et quand une langue disparaît, c'est une manière de voir le monde qui disparaît, une façon de le décrire. Cette façon de le décrire qui n'existe pas dans nos langues européennes. En Afrique, les langues bantoues peuvent utiliser jusqu'à 25 préfixes pour exprimer des genres masculins, féminins ou pour parler d'un objet. Alors ce monsieur dit notre langue bano est en train de se noyer parce que nos enfants commencent à parler la langue des blancs. On est au Cameroun. Voilà, pour préserver une langue, seule la transmission compte, qu'elle soit écrite ou orale, mais les linguistes sont formels. Si elle n'est pas parlée, elle meurt. Le latin, bien qu'écrit, s'est effondré avec l'Empire romain. Nos langues régionales ont finalement connu le même sort. Voilà, c'est à lire dans La Croix ce matin.
C'est un magnifique article où l'on apprend plein de choses. Merci beaucoup, Ombline Roche. J'ai choisi pour ma part un article tout aussi passionnant à lire sur le site slate.fr, article qui raconte comment le masque mortuaire d'une inconnue noyée dans la Seine va inspirer des années après des artistes de toute l'Europe.
C'est joli.
Dit comme ça. Mais vous allez voir.
Noyée dans la Seine.
Vous allez voir. D'accord. Nous sommes à Paris en 1880. Le corps d'une jeune femme est repêché du fleuve. Aucune trace de contusion, aucune plaie. On conclut à un suicide. Un détail, en revanche, turlupine le médecin légiste. Le visage étrangement paisible de l'inconnu. Il s'y dessine un sourire énigmatique, un sourire tellement hypnotique que le légiste décide d'en réaliser un moulage. L'inconnu de la Seine se retrouve alors propulsé au même niveau que Napoléon ou Beethoven, elle aussi a droit à un masque mortuaire. À l'époque, cette pratique est à la mode, de la même manière que la morgue de Paris était une attraction très prisée qui figurait en bonne place dans les guides touristiques. Les corps non identifiés y étaient exposés derrière des vitrines et toute la société, pauvre ou riche, venait y défiler comme si c'était une pièce de théâtre. Autre temps, autre mœurs. Quoi qu'il en soit, les répliques du masque mortuaire de l'inconnu se retrouvent vite sur les étalages des mouleurs parisiens. On l'achète comme un souvenir, mais surtout en raison de ce sourire si particulier. En 1901, le poète autrichien Rainer Maria Rilke, à qui l'on doit le célébrissime Lettre à un jeune poète, tombe littéralement sous le charme du masque. Il souriait de façon si trompeuse comme s'il savait, écrira-t-il. Dans les années 20 et 30, le masque de l'inconnu fascine toujours autant. Il est exposé fièrement au mur des maisonnées bourgeoises ou des appartements de la jeunesse bohème. Il connaît même une postérité littéraire. L'écrivain Jules Supervielle en fait le personnage principal de l'un de ses romans. Nabokov dédie un poème à, je cite, « la plus blême et ensorcelante de toutes ». Et ce n'est pas fini. Louis Aragon, qui contemple chaque jour le masque mortuaire sur le mur de sa chambre, croit reconnaître l'inconnu quand l'une de ses nombreuses conquêtes ferme les yeux. Alors comment expliquer que cette fascination ait si longtemps perduré ? Eh bien probablement parce qu'on ne compte plus dans la littérature les personnages féminins morts par noyade, la plus célèbre étant l'Ophélie de Shakespeare, amoureuse et conduite de Hamlet. Dans les années 60, un fabricant de jouets norvégien succombe à son tour au charme de l'inconnu. Depuis quelque temps, l'homme planche sur un projet de mannequin dédié à l'apprentissage des techniques de réanimation cardio-pulmonaire. C'est donc tout naturellement qu'il donne à son mannequin en plastique les traits de l'inconnu de la Seine. Plus d'un siècle après sa mort, la jeune femme aura donc, destin ironique et paradoxal, permis de sauver des centaines de vies.
T'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir, et moi courant sur la rive, je...
Est-ce que vous reconnaissez la voix ?
Non.
Serge Gainsbourg.
Ah oui.
La noyée. Ah
bon ? D'accord.
Le titre de cette chanson que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à cet article. Voilà, le pressing se termine pour aujourd'hui. Merci Paul Lassen.